double Apax, c'est, l'idée c'est que c'est un mot qui sonne bien, Apax, même si on n'en connaît pas le sens. Mais quand on veut en connaître le sens, ça veut dire quelque chose. Un Apax, c'est un mot qui, dans une langue, en général dans une langue morte, pour laquelle on a très peu de traces, très peu de textes, de documents qui ont été conservés. Et du coup, quand les archéologues sortent des papyrus, sortent des... un Apax, c'est un mot qui n'apparaît qu'une fois. Et du coup, par recoupement, c'est très dur de trouver le sens, parce que les langues mortes qui ont été exhumées, c'est par déduction, par recoupement, qu'on peut reconstituer un dictionnaire. Et quand il n'y a qu'un mot, il apparaît que dans un contexte, et du coup, c'est que dans ce contexte-là qu'on peut essayer de deviner le sens qu'il a, parce que c'est une forme unique. Et on ne le retrouve pas parce que 90% des papyrus ont été détruits par le temps. Donc un Apax, c'est un objet unique, un mot unique et énigmatique. Et du coup, double Apax, c'est une expression contradictoire. Par définition, un Apax, c'est pas double. Donc en rhétorique, on appelle ça un oxymore. Un oxymore, c'est l'obscure clarté, c'est un oxymore. C'est-à-dire un adjectif et un nom qui ne devraient pas aller ensemble. Double Apax, c'est un oxymore. Les deux Apax, c'est Bruno qui tournait solo avec sa guitare et ses pédales, et moi qui tournais solo avec mes textes. Et donc notre rencontre, ça fait un double Apax. Et d'ailleurs, le premier album, on l'a appelé Oxymore ou Vif, avec là encore un petit jeu de mots un peu grinçant, un peu macabre, sur le oxy, mort ou vif.
Je suis l'héritage magnifique de Madame la Merde, l'enfant dégueulasse des cabarets étranges. J'y suis venu au monde dans leur brume d'alcool, j'ai vagi dans leur fange et dans leur brouhaha. J'ai imité leur protocole, j'ai observé leur étiquette, j'ai biberonné leurs liqueurs amères, leur absinthe, leur quinquina et leur piquette. J'ai fait mes premiers pas dans leur flaque de bière, adulte, y ai franchi maintes mares de larmes. J'ai appris à lire sur les murs de leur latrine, sur les enseignes saignantes de leur vitrine. Sur l'ardoise, j'ai appris à compter jusqu'à 30. J'ai joui d'une éducation édifiante. Je suis le favori de ma mère, la mouise, le moussaillon de la bâtardise, la mascotte des lupanards. J'y ai perdu ma thune sur le zinc des comptoirs. Au fond de l'arrière-cour, mon pucelage, mes illusions pour toujours, au dernier étage. Je persiste à y épancher mon cynisme natal, à y étancher ma soif d'idéal. J'en ramène une odeur de sueur, de stupre et de tabac froid. Le costume poisseux et le cœur tout de même. Et la langue poissarde, quelquefois.
Alors, Double Apax, c'est un projet avec Kestekop, qui est un guitariste qui fait un rock un peu cradingue et un peu bizarroïde, qui tourne en solo sous ce nom-là, parfois avec un batteur sous le nom de Kestekop 2. Et donc on s'est rencontrés il y a 5 ans maintenant, et on a fusionné un peu deux projets solo, lui qui tournait à l'époque avec des pédales de sample, qui montait des boucles, et moi qui me trimballais avec mes textes sur les scènes ouvertes. Et donc on a fusionné tout ça, comme si ça allait de soi en fait, entre son rock un peu brumeux et mes textes. Donc voilà, ça fait maintenant 4 ans, ouais, 4 ans et des poussières qu'on fait de la scène, avec un deuxième album en préparation, un album déjà qui est sorti il y a 3 ans.
Ok, t'avais déjà monté d'autres projets avant, musique et...
Ça va faire maintenant 12 ans que je fais de la scène sur les scènes ouvertes, les scènes slam, depuis les premières scènes slam à Toulouse en 2002, qui était au Clandé, qui était un squat mythique de l'époque. Et après, avec des musiciens, non. C'est, si ce n'est avec Professeur Zimon, qui est l'ingé son de Double Apax, et avec qui on avait fait quelques textes. Moi, j'étais son parolier, en fait. Lui, bidouillait, il interprétait des textes que j'écrivais et qu'il enregistrait et qu'il interprétait, sur lesquels il composait la musique. C'était que du studio, on n'a jamais fait de scène. Mais il y avait déjà eu quelques textes, du coup, où c'était moi qui posais les textes sur ces instrus, mais jamais sur scène. Donc avec Estécope, c'était vraiment le premier projet musical vraiment abouti jusqu'à se produire sur scène. Après, j'avais déjà à l'époque 8 ans, 12 ans maintenant de pratique de la scène, mais tout seul a cappella, un peu comme j'ai fait aujourd'hui.
Okay. Et comment tu es venu au slam? Tu viens de la littérature
Ouais, alors c'est le goût de l'écriture. L'oralité, ça permet une diffusion immédiate et vraiment instantanée, avec un rapport direct avec les destinataires. Donc c'est pas des lecteurs, c'est des auditeurs. On mesure tout de suite l'émotion, le rire, quand on suscite la provocation, l'humour, c'est vraiment immédiat. Là où au contraire, la publication papier, que j'aime beaucoup, moi je suis un grand lecteur, mais en ce qui me concerne, j'ai toujours été découragé par à la fois tout ce qu'il y a en amont de démarchage, de copinage, d'aléatoire, et quand enfin on est publié, quand ça arrive, la diffusion, la distance qu'il y a entre le texte et l'intention d'un côté et ceux qui la reçoivent de l'autre, voilà, tout ça, ça a fait que j'ai jamais même essayé d'être publié. Et par contre, l'oralité, je trouve quelque chose d'instantané. Le texte peut être écrit le matin et avoir déjà une première rencontre le soir même. Et c'est venu au tout début, donc en 2002, la première scène slam au Clandé. En fait, il faut resituer dans le contexte. C'est un projet à la fois à titre individuel et au niveau du collectif du Clandé. C'était une intention qui était plus politique qu'artistique au départ. C'était dans un squat qui était un vivier artistique, mais qui était un squat très politique quand même. Et c'était 2002, l'automne 2002, donc c'était après le second tour Chirac-Le Pen et Sarkozy qui commençait déjà à pointer le bout de son nez, qui était ministre de l'Intérieur. Voilà, et donc à l'automne, il y a eu le constat qu'on vivait dans une espèce de chape de plomb horrible. Et il y a un pote du Clandé qui a dit on pourrait ouvrir un micro et déballer tout ce qu'on a à dire. Et moi j'ai dit à Paris ils appellent ça du slam. J'avais vu une scène slam à Paris. Et du coup on a fait ça le 15 octobre 2002. Ça s'appelait Sarcasme anti-Sarkozy. C'était, donc il y avait vraiment l'idée d'une prise de parole collective dans un contexte dans lequel on ne se reconnaissait pas, particulièrement depuis ces putains d'élections présidentielles. Et ça a été tellement grisant, et pour ceux qui ont pris le micro et pour ceux qui ont écouté, que le 15 de chaque mois, on a continué pendant 4 ans jusqu'à l'expulsion du Clandé. Donc l'intention première, c'était vraiment une prise de parole sur la place publique et avec une intention politique. Mais bon, quand on veut faire passer un message, si on y met de l'humour et de la poésie, c'est mieux. Et c'est un peu l'idée que je trouve à la base du slam. On a des choses à dire, mais avec la manière, c'est mieux parce qu'on est plus sûr d'être entendu et de marquer les esprits.
À tous les cabarets étranges qui accueillent les scènes slam, et tout particulièrement cet étrange cabaret que Rachel connaît bien, le Clandé, qui a vu les premières scènes slam toulousaines en 2002 jusqu'à son expulsion en 2006, et à tous les autres cabarets étranges qui, par la suite, où on a traîné nos basques et répandu notre grandiloquence. Il fait pas chaud dehors, mais je campe. Je campe sur ma position, ni position démissionnaire, ni fataliste, ni fétale. La position du slammeur debout, franc-tireur d'adjectifs, sniper rhétorique, dynamiteur métaphorique, saboteur sémantique, pessimiste, combatif. J'y campe et j'en bouge pas. Le corps immobile et le verbe en alerte. Alerte, alerte à toutes les polices de caractère, car je m'en vais vous narrer un conte, pour solde de tout compte, car tout doit disparaître. Le corps immobile et le verbe en alerte, je campe sur ma position. Je suis cerné par d'autres corps immobiles. Je campe le décor. Le décor des corps et du verbe, dénudés et glacés. Un verbe et des corps qui vantent et vendent et soldent de quoi vêtir ou remplir d'autres corps. Le décor des corps muets et plats, des corps dont les courbes platement s'exhibent, des corps dont le verbe s'étale en caractères fluos et gras. Un verbe aguicheur comme une madame casino, et figé comme au fond d'une poêle, un résidu de graisse de porc. Le décor, décor aux positions osées, décor aux tailles variées, décor aux goûts avariés. Décor en deux dimensions, ce qui, pour un corps, est un tort. Ces chinantes à titiller, les phéromones et les hormones, les porte-monnaies et les euros, des pléthores de badauds et de pécores stupides qui trépignent, speed et trépides, qui baguenaudent et qui picorent et qui consomment, en redemandent et disent « Encore !» Dans un décor de rêve. Ma position reste ferme, j'accorde aucune trêve, mais malgré mes anticorps, j'ai un haut le cœur. Le monde tourne, et ma tête tourne, et mon verbe tourne, et il tourne en rond. Il tourne en rond, et il tourne en rond, et autour tourne le monde sans perdre une seconde. C'est normal, c'est les soldes. Alors je tourne de l'œil, je perds contrôle, et je pars dans le décor. Je me retrouve de l'autre côté. Ce doit être l'envers du décor. De l'autre côté du miroir aux alouettes qui picore les déchets qu'édulcore le doux décor. Me v'là à l'envers du décor. Ben ça pue. Je vois de grosses machines et de petites machinations. J'entends des chiffres, j'entends des noms. Thalès plus 1,2%, Vivendi plus 4,6%, Eden Life plus 8,9%, Euramour plus 14%. J'entends des cris et ça pue. Je trébuche sur un plan social, me prends les pieds dans les déchets hospitaliers d'une guerre chirurgicale. Merde. J'ai marché dans une ambition présidentielle. Le sol est jonché de cadavres soldés et malodorants, des corps de femmes, des corps d'enfants, des corps d'hommes, des corps hommes. Et ça pue. J'ai les tripes à l'envers du décor. Je vous parle depuis le trou du slammer. Un dernier souffle et je m'en arrache. Je fuis le décor et ses coulisses. Je vais disparaître, tout doit disparaître. Je vais me blottir contre ton corps soyeux et lisse. Et arriver à bon port, me terrer dans l'envers de ton corps. Là, je verrai pas Sarkozy. Passer l'hiver dans ton corps, je me mets au vert dans ton corps, à l'envers du décor, à l'envers de ton corps, à l'envie de ton corps, puisque tout doit disparaître. Bravo.
Alors il y a une tradition, mais dans le, que je retrouve maintenant plus, c'était pas à l'origine de ma démarche, mais c'est plus maintenant que je me rends compte qu'il y a une histoire qui nous précède depuis longtemps. Et effectivement, depuis la fin du 19e siècle, des poètes un peu anticonformistes, souvent dans une mouvance libertaire, donc il y a eu Dada au début du 20e siècle, en période de la Première Guerre mondiale, avant il y avait les hydropathes, voilà, et c'était depuis la fin du 19e, une poésie assez peu, pas ampoulée, pas guindée, et qui s'exprimait dans les cabarets, effectivement. Et donc c'est une tradition dont, après coup, je me rends compte qu'on est les héritiers. Et après, à côté de ça, il y a la tradition de la culture hip-hop, du rap, le rap à texte, ce que le rap peut faire de mieux, en tout cas, et le rock. Bon, effectivement, l'énergie, même quand Bruno n'est pas là, quand Kestekop n'est pas sur scène, pour moi, il y a quelque chose de rock'n'roll dans la sueur, la dépense physique, l'énergie, y compris quand c'est a cappella et quand ça passe pour être de la poésie. Voilà, c'est revendiquer une poésie brutale, en fait. Il y a un copain un jour qui a dit... à la fin d'un concert, merci pour ta poésie brutale, et c'est une étiquette que depuis je conserve, parce que je trouve que poésie, ça laisse attendre quelque chose de mignon. C'est pas forcément le cas, loin de là, mais dans l'esprit de chacun, on pense d'abord à un truc mignon, et poésie brutale, c'est vraiment, ça résume bien la poésie dont je me réclame.
Crac, zim, boum. L'économie patine, dérape et se détraque. Le grand cas capital bégaye et fait des couacs. Fauché comme les blés, géniard paranoïaque. Le modeste épargnant prend ses clics et ses claques. Accusant le système, se plaignant de l'arnaque. Ah que l'avenir est sombre et les comptes sont opaques. et le petit porteur débarqué sur le tarmac dans un avion de luxe pour faire son comeback, repart en triporteur, cherche du boulot au black, mendie place de la bourse ou joue au tac au tac. Acquéreur, manager, trader et autres macaques accablés se répandent, réduisent à l'état de flaque, vendent à cash converteur leur smoking et leur frac, achètent à Emmaüs un jean à Nanora.
Et en fait, on a un peu le cul entre deux chaises, puisque on est parfois trop rock'n'roll pour passer dans des théâtres et trop dans le texte pour passer sur des scènes de rock. Mais pour les lieux qui, et c'est pour ça que je faisais une dédicace au cabaret étrange, il y a des lieux qui n'ont pas peur des formes bizarres. Et du coup, en étant un peu à la croisée des genres, ben ces lieux, ça peut être avec un public assis qui est vraiment dans l'écoute, comme des lieux où ça pogote, pourquoi pas. Ouais. Dans les textes sur les scènes slam, donc c'est souvent de là que viennent les textes de Double Apax, enfin, c'est de là qu'a commencé l'écriture des textes en format bref, comme ceux que je fais avec Double Apax ou sur les scènes slam. Il y a l'idée effectivement d'une prise de parole dans un espace public et du coup dire des choses qui sont d'intérêt, qui ont un intérêt collectif, donc sur des sujets qui vont être plutôt politiques ou sociaux. En fait, le fait de le faire en musique avec Kestekop, ça m'a donné l'occasion de diffuser des textes plus intimistes que j'avais moins, je ressentais moins l'urgence de les dire sur les scènes slam, et je penchais plus du côté revendicatif. Et dès lors qu'il y a de la musique, je trouve que ça laisse plus la place aussi à une expression intimiste. Et en même temps, je ne fais pas une étanchéité entre les deux. Dans les deux cas, le fait d'écrire, ça vient d'une espèce d'urgence, une espèce de révolte, qui peut venir, je sais pas, d'un désarroi amoureux comme d'un contexte politique ou social révoltant. Et donc, que ce soit un chagrin d'amour ou le préchi-précha quotidien sur la croissance, dans les deux cas, il y a l'urgence d'écrire et de vider son sac, en fait. Que ce soit sur quelque chose de très existentiel et très personnel, comme sur des choses, on va dire, qui touchent plus au collectif. Et après, il y a donc cette urgence qui est souvent une révolte ou un désespoir, dépasser une forme de désespoir, le dépasser par l'écriture et par l'humour, même si souvent c'est de l'humour noir. Et après, techniquement, en quelque sorte, souvent ça part d'une phrase qui est souvent la chute, ou alors une expression ou une phrase qui est le point de départ. Et souvent, en fait, le point de départ de l'écriture, et souvent c'est le point d'arrivée du texte. J'écris le texte pour arriver à cette chute parce que j'ai une phrase qui résume bien et à laquelle je veux amener, et sur laquelle le texte va terminer.
Au pied de la guillotine, pour ultime parfum, mes narines n'aspirent que l'odeur musquée du crottin des chevaux de la maréchaussée qui se dressent comme une haie d'horreur.
Alors lors de ta prestation, tu as parlé de Bukowski à un moment donné. Donc il y a d'autres auteurs comme ça que tu apprécies particulièrement?
Ouais, alors je lis peu de poésie, en fait, bizarrement. Enfin, si, j'ai une culture poétique, voilà, par ma formation littéraire. Donc Baudelaire, Rimbaud, bien sûr, mais et plein d'autres. Mais le type d'auteur auquel je me référerais plus explicitement pour ma pratique, et parce que c'est de la poésie qui se diffuse sur la scène, je serais tenté plutôt de citer Juliette, Noir Désir, Cazé, voilà, de la chanson.
Ouais, plusieurs, la musique, en fait.
Ouais, de la chanson, comme Juliette, pour moi c'est un très grand nom, de la chanson, le rock à texte, Noir Désir, et le rap, Cazé. Ouais, là. Et après, oui, il y a aussi des poètes, René Char, Hugo, j'ai été nourri de Hugo, je pense que c'est un imaginaire, Victor Hugo, qu'on peut retrouver encore dans mes textes, dans mes propres textes, parce que c'est vraiment un auteur qui m'a marqué depuis l'adolescence, en fait. Ça peut paraître un peu désuet, et en même temps, je trouve qu'il y a une écriture qui a du souffle, qui associe les contraires, qui associe le trivial, le vulgaire et le sublime, qui déconstruit les codes à son époque, lointaine, et qui quelque chose dont je, dans la tradition de quoi je me situe. Mais premier réflexe, je pense quand même à cette poésie qui se diffuse sur la scène, la chanson, le rap, le rock.
Et déporté par la narration et le polar un peu aussi, non, dans ce que tu fais.
Il y a cet imaginaire noir qu'on retrouve dans le roman noir. Et du coup, y a des affinités avec le polar. J'ai au pied de l'échafaud, qui est le monologue mental d'un condamné à mort au pied de la guillotine. Bon, ben forcément, c'est un condamné à mort. On touche à quelque chose qui peut faire penser au polar. Bourreau d'enfant, qui est un texte qui raconte un fait divers sanglant s'était déroulé dans l'Angleterre des années 90, où il y avait deux gamins d'une dizaine d'années qui avaient torturé à mort un petit de 3-4 ans. Moi j'ai écrit un texte sur la base de ce fait divers, une écriture très clinique, très glaçante. Donc c'est sûr que l'affinité que je peux voir entre mes textes et le polar, c'est que le polar traite les côtés obscurs du monde social, et avec souvent, enfin en tout cas le polar qui m'intéresse le plus percutant, souvent une dimension d'observation clinique, voire de dénonciation des coulisses, des travers, des dessous de table, du côté obscur du monde miroitant dans lequel on vit. Donc il y a une affinité avec le polar.
Ok, la narration aussi, t'aimes...
Ouais, alors la seule particularité, c'est que la plupart du temps, à part le fait divers dont je parlais, par exemple, qui est une écriture à la troisième personne, mais le plus souvent, j'écris à la première personne. C'est souvent des rôles imaginaires. Un texte qui s'appelle L'équilibriste, c'est le monologue d'un pendu. Je ne suis pas du tout suicidaire. Après, la question du suicide, ça m'interroge quand même, c'est une préoccupation. Ça ne veut pas dire que je suis suicidaire au sens psychiatrique du terme, mais c'est une préoccupation existentielle qui me touche. Donc j'emprunte des rôles et je les fais s'exprimer à la première personne, parce que sur scène, ça m'est beaucoup plus facile d'incarner les textes. C'est toujours cette idée d'incarner la poésie, de faire en sorte que ça ne soit pas un truc froid et neutre et sage et lisse, mais que ce soit un truc avec du sang, avec de la sueur, voilà, un truc qui pue des pieds et qui mouille la chemise. Et du coup, le fait d'écrire à la première personne me permet beaucoup plus, dans une veine presque théâtrale en même temps, d'incarner la chose, de faire que le propos il est vraiment habité. Donc c'est un peu la différence avec la narration, ça raconte des histoires, mais dont je suis souvent, dans mes textes, le personnage principal qui s'exprime à la première personne et qui déblatère sa tranche de vie.
On va me dire encore que j'épouse des thèses extrêmes, mais de rechef, j'ai la rage, le spleen et le blues, et à cracher quelques griefs à la face de ma ville, Toulouse, qui est pas trop ma ville, mais le fief des industries qu'on nous jalouse, Airbus, Matra et AZF, qui fabriquent des trucs et du flouze, diverses armes et du bénef, et des profits chimiques partout de l'alchimie du chiffre. En bref, c'est une rente 12 mois sur 12. La chimie fait du chiffre bzef. Ça boum parfois, jamais ça lose. Y'a qu'à voir le sourire des chefs. Mais moi j'ai le blues de Toulouse. Moi je vois pas la ville en rose. Mais moi j'ai le blues de Toulouse. Et demain, c'est moi qui explose. Yeah. Mais moi j'ai le blues de Toulouse, moi je vois pas la ville en rose. Mais moi j'ai le blues de Toulouse, et demain c'est moi qui explose.